de classe auront en grande partie disparu des discours médiatiques ou intellectuels, puisqu'ils auront été remplacés par ces choses très volatiles que sont effectivement le goût pour certains yaourts ou le goût pour... Il y a aussi une raison beaucoup plus concrète à tout ça, qui est que c'est l'époque effectivement du boom d'un certain capitalisme français, et pour optimiser le marketing, c'est-à-dire tout simplement pour savoir quelle musique sera la plus efficace à faire passer dans le supermarché pour que les gens consomment, là, il faut faire des enquêtes permanentes, il faut faire des groupes de consommateurs, il faut les cartographier. Donc, l'objectif plus direct, c'est ça. Mais l'objectif, moi, il me semble, à terme, c'est quand même effacement des marqueurs de classe et catégorisation exhaustive de toute la population consommatrice française, quoi.
Vive la sociologie de marketing.
Oui, enfin, en tout cas, le marketing a tué la sociologie. Ouais.
Encore une fois, François Cusset, on a évoqué quelques figures rares, vous le disiez, avec Serge Halimi, de résistants à cette époque, hautement idéologique. Hein, c'est une époque qui dit c'est la mort des idéologies et qui est en vérité hautement idéologique. Que fait Bourdieu à ce moment-là, puisqu'on est en train de parler de sociologie? Que dit-il? Qu'écrit-il?
Bourdieu est dans une phase de grande productivité universitaire. Il n'est pas du tout encore dans sa phase militante des années 90. Hein. Il a un laboratoire, une équipe de chercheurs. Il écrit des livres importants. Il est très isolé. Bon, il est les actes de la recherche en sciences sociales, sa revue est l'un des rares lieux critiques, vraiment critiques de l'époque, hein, parce qu'on peut y lire, alors là, si on veut chercher des dossiers critiques sur tout ça au présent, allez lire les actes de la recherche, mais enfin malheureusement pas grand monde les lisait. Mais il y a un problème quand même dans le fait que le discours sociologique critique de Bourdieu est d'une part très isolé, assez peu compréhensible et audible, assez peu opératoire, je veux dire, pour penser à une action politique de résistance. On pourrait presque lui faire le reproche même d'inverser finalement l'économie générale qui domine. Il l'inverse en une sorte de contre-économie des signes, contre-économie symbolique, qui est sans doute très juste. Je veux dire, il a à peu près tout compris ce qui se passe à cette époque-là, mais très incapacitante. Parce que si on lit Bourdieu à l'époque, ça donne moins envie de sortir dans la rue que de se tirer une balle. Enfin, on passe du pessimisme au désespoir. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, l'évolution de Bourdieu est importante, parce que le fait qu'il passe au militantisme dans la décennie suivante, c'est aussi que la question de l'action politique... va surgir comme un complément nécessaire. On ne peut pas simplement critiquer et cartographier tout ça.
Serge Halimi ?
Il faut tout de même rappeler qu'à l'époque, il y avait déjà le monde diplomatique qui était mensuel.
Et pas le plan B,
non,
ça
pas
manquait.
Le plan B, moi, j'étais donc étudiant, je lisais le monde diplomatique, pas Acte de la recherche en sciences sociales, et c'était un journal qui servait déjà, en quelque sorte, de môle de résistance à cette idéologie libérale. Quant à Bourdieu, il est vrai que c'est plutôt à partir des années 1990 que, comme il l'a expliqué lui-même, il s'est senti obligé d'intervenir, d'entrer plus franchement dans l'arène, en voyant à quel point des gens qui n'avaient aucune compétence scientifique d'aucun ordre prétendaient dire leur vérité sur un monde social qu'ils ne connaissaient pas.
Et voici le bébé de show pour les RIPER, les socialos.
Les RPR craquent et les fachos.
Ce sont tous des rigolos.
Gère, venait ensuite Charles Pasqua et Robert Pendreau. Ambiance plutôt bon enfant avec la presse. Une ambiance contrastant avec l'atmosphère qui régnait dans le salon Murat. À l'ordre du jour, un seul point, un seul, l'organisation des travaux du Conseil des ministres. Finalement, ce premier conseil de l'époque de la cohabitation n'aura duré que 25 minutes. À sa sortie, Jacques Chirac a esquissé un sourire, mais il n'a fait aucune déclaration. Tous les ministres, sans exception d'ailleurs, sont restés muets.
Est-ce que c'est un moment clé, ça aussi, François Cusset?
D'abord, c'est le début de la cohabitation, hein, cette expérience inédite dans l'histoire politique française, avec la victoire de la droite législative, et donc un gouvernement Chirac sous présidence Mitterrand. Au début, avoir l'ambiance de l'année, avoir l'ambiance des élections d'ailleurs, et le programme de la gauche, qu'on avait un peu de mal à distinguer du programme libéral de la droite, au début, on pense effectivement convergence quand même, là aussi, des programmes politiques et des idées de fond, et que ça devrait donc se passer à peu près bien. Et puis, surprise, en juillet, Mitterrand refuse de signer les ordonnances donc de privatisation ou dénationalisation, d'où cette crise, effectivement, presque de régime, hein, parce que là, Chirac fera usage du 49-3 et passera outre, mais voilà, il y a tension forte.
La privatisation devant les députés, pas de surprise, 49-3 et motion de censure. Au menu de l'Assemblée nationale, le projet sera adopté la semaine prochaine. Hino remporte l'étape contre la montre, mais Greg LeMond bétonne son maillot jaune au terme de cette 20e étape.